C'est un événement central pour les apôtres et ceux qui étaient avec eux ce jour-là, mais il l'est aussi pour nous aujourd'hui. Et donc, il n'a pas arrêté depuis de se propager jusqu'à nous. Et je vous rappelle cette parole de Pierre qui a dit à la foule réunie le jour de la Pentecôte, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc cet événement nous concerne, nous tous, directement. Il concerne ceux avec qui nous vivons, notre descendance, nos amis, nos collègues, tous ceux avec qui nous sommes en relation. Et aussi bien il concerne les croyants que les non-croyants, que les gens qui sont en recherche. L'Esprit Saint est une promesse pour tous les êtres humains. Et nous allons ensemble réfléchir à son action et découvrir combien il est agissant si nous le laissons faire. Pour beaucoup, la promesse de l'Esprit Saint s'est concrétisée tout d'abord par votre baptême. Si vous êtes baptisé, vous habitez par le Saint-Esprit. Si vous êtes en chemin catéchuménal, vous serez bientôt revêtu de l'Esprit. Mais déjà, pour que vous soyez en chemin catéchuménal, il a déjà agi. Et si vous n'êtes pas croyant, si vous êtes en recherche, eh bien, sachez que l'Esprit est quand même proche de vous et très probablement, on ne sait pas comment, mais il vous guide et il vous conduit. Et si vous êtes ici, il a certainement dû un peu agir pour que vous soyez ici. Donc, la plupart d'entre nous sont baptisés, donc nous fréquentons probablement des sacrements. Et chaque fois que vous avez reçu, que vous recevez un sacrement, que ce soit le baptême et la confirmation, mais ça, nous ne les recevons qu'une fois, mais que ce soit l'Eucharistie, par exemple, vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez à nouveau le Saint-Esprit. En réalité, ce qui se passe, c'est que, bien qu'ayant reçu le Saint-Esprit et sa force, nous avons une petite tendance à le laisser dormir au fond de nous. Le Saint-Esprit n'agit pas contre nous. Il nous laisse toute liberté. Et nous ne laissons probablement pas assez au Saint-Esprit la place et l'espace dont il a besoin pour se déployer en nous. Nous ne le laissons pas vraiment agir. Et c'est un peu le pas que vous allez être invité à faire au cours de ce week-end, c'est de lui donner l'autorisation de produire ses effets en vous. Mais avant de lui donner l'autorisation, il faut au moins que vous compreniez un peu à quoi vous vous engagez. On a essayé d'expliquer un peu qui était l'Esprit Saint, mais cette ouverture, il faut la faire en toute liberté. Et cette autorisation de lui donner la liberté d'agir en vous, elle doit être donnée en toute liberté. Dieu est là, il se tient à votre porte, il veut vraiment, il se tient à la porte de votre cœur. Et parfois, on est un peu difficile à ouvrir la porte. Parfois, elle reste fermée pendant de longues années, croyez mon expérience. Le Seigneur veut nous combler de ses dons, veut nous donner beaucoup de cadeaux. Il nous les donne ou nous les propose. L'homme l'accueille ou ne l'accueille pas. Et c'est quelque chose de très important, dans une dimension importante dans notre foi, c'est la liberté. Cette liberté, c'est un mystère, cette liberté que Dieu nous donne. De l'accueillir ou de ne pas l'accueillir. Alors on va un petit peu voir quels sont ces effets, quelles sont ces actions, qu'est-ce qu'il fait en nous. La première chose qu'il fait, sa principale œuvre, si je puis dire, c'est de répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Saint Paul, dans une de ses lettres, dans les lettres aux Romains, dans l'épître aux Romains, il dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'action de l'Esprit. » Il est peut-être difficile pour certains d'entre vous d'entrer dans l'idée que Dieu vous aime. Et en effet, Dieu vous aime personnellement, comme vous êtes, là où vous êtes, là où vous en êtes, avec toute votre histoire, avec tout ce que vous avez fait de bien et de moins bien dans votre vie. Et ça, c'est l'essentiel. C'est de savoir que Dieu vous aime, vous, personnellement. Et alors, il y a quelque chose d'important, hein. C'est pourquoi essentiel, et cela, et de cet amour, tout découle. En effet, tous ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu, c'est une parole dans Romains 8, sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave, donc si vous êtes habité par l'Esprit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Bon, c'est saint Paul qui s'adresse aux Juifs et aux non-Juifs qu'il rencontre après sa conversion. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif. Et comme fils, vous pouvez vous écrier « Abba Père ». Un fils se tourne vers son père, nous vivons ça sur le plan humain, nous disons « Papa, Père ». Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Et l'esprit se joint à notre esprit humain pour attester que nous sommes enfants de Dieu. C'est le rôle de l'Esprit Saint, c'est de permettre qu'un jour, et ça peut se vivre progressivement, la découverte peut être progressive, qu'un jour vous soyez convaincu que vous êtes un fils ou une fille bien-aimée de Dieu. Et si Dieu est Père, si on découvre cet amour qu'il a pour nous, il souhaite comme Père que nous accueillions ce qu'il nous a donné. Et le plus beau cadeau qu'il nous a fait, c'est son Fils. Parce que par Jésus, nous est venue la vie, la promesse du royaume. Et le Père du ciel veut pour chacun de nous le meilleur. Et nous voilà donc des fils et des filles de Dieu. Et c'est notre principale identité. Bien sûr, vous pouvez vous appeler Michel, Georges, Sabine, Étienne, Véronique, enfin, vous avez tous un prénom, nous avons tous reçu. Mais votre identité profonde, c'est celle d'être fils et fille de Dieu. Je sais que c'est une idée qui doit rentrer doucement, parce que ce n'est pas nécessairement évident à acquérir, mais c'est l'œuvre de l'esprit. Hein. Ça peut vous sembler une idée théorique, mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une réalité auquel on peut adhérer. Et j'ai déjà raconté l'histoire, donc pardon à ceux qui la connaissent, mais alors que j'étais en chemin il y a environ, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, je peux vous dire, mon chemin était bien chaotique. J'ai rencontré, grâce à un collègue, un père jésuite qui était délicieux et qui avait le physique de Dieu le Père, pour moi, comme on se représente dans les livres quand on était enfant, Dieu le Père, le visage rond, les cheveux blancs. Et bon, c'était une image, hein, mais c'est un père jésuite délicieux et il avait le physique de Dieu le Père tel qu'on se le représente. Et nous avons beaucoup parlé. Et il m'a accompagné dans mon cheminement qui était vraiment une recherche. Je cherchais, c'était assez compliqué, assez chaotique, la vie était difficile pour moi à l'époque. Et nous avons beaucoup parlé et il était là pour voir le chemin que le Seigneur faisait en moi par son esprit. Et il était un meilleur observateur de moi-même que je ne l'étais bien sûr. Et alors il était toujours souriant, il se réjouissait chaque fois que je lui racontais certaines choses. Et il rendait grâce et il me disait « Mais Dominique, vous êtes une fille de Dieu. » Au début, ça m'énervait terriblement qu'il me dise « Je suis une fille de Dieu » parce que je ne me sentais pas vraiment une fille de Dieu. Enfin, qu'est-ce que c'était pour une drôle de manière de dire. Et puis, figurez-vous que progressivement, cette parole, elle est entrée en moi. Et vraiment, aujourd'hui, pour moi, c'est mon identité. Je me sens cette fille de Dieu, aimée de Dieu. Mais il a fallu du temps pour que j'y arrive tout doucement. Et puis, il a fallu la médiation de ce charmant père jésuite qui me disait toujours « Dominique, vous êtes une fille de Dieu ». Alors, accueillons cet amour, soyons ouverts et laissons l'Esprit répandre cet amour dans nos cœurs pour que un jour nous puissions vraiment recueillir les effets de cette filiation. Parce que quand moi j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi, je ne savais même pas que c'était possible. Personne ne m'avait parlé comme j'essaie de vous parler aujourd'hui. Mais je sais vraiment que j'ai vécu un jour une expérience profonde, dans une grande douceur, où j'ai eu vraiment cette certitude intérieure de cet amour de Dieu pour moi. Et ça a changé du jour au lendemain, parce que j'ai eu tout d'un coup cette expérience en plein après-midi. Ça a changé complètement ma vie, ma manière de voir les choses. Et en tout cas, je sais que ce jour-là, c'était juste il y a un peu plus de 20 ans maintenant, vraiment le Seigneur a pris une place centrale dans ma vie. Et j'ai vraiment vécu, en découvrant cet amour pour moi, j'ai vraiment vécu une nouvelle naissance, un peu comme Nicodème, l'histoire de Nicodème qui nous est rapportée dans l'évangile de Jean, où Jésus dit « il faut naître de nouveau ». Eh bien, j'ai vraiment l'impression que j'étais une nouvelle Dominique. Et pourtant, Dominique, j'étais mariée, j'avais des enfants, ça n'a rien changé. Ça a changé ma manière d'être, mais je n'ai pas changé de statut pour autant. J'ai continué à vivre ma vie d'épouse et de maman, de grands-enfants à l'époque. Voilà. Donc, j'ai vraiment vécu ça a été comme une nouvelle naissance pour moi. Alors, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je vais vous dire, vous ne faites rien, simplement vous laissez la manœuvre à l'Esprit-Saint. La parole dit, le vent souffle où il veut, eh bien, contente-toi d'écouter sa voix et il l'aidera. Ne vous attendez pas à un feu d'artifice, je vous l'ai dit tout à l'heure, du style Pentecôte. Croyez plutôt mon expérience que l'esprit s'exprime souvent dans la douceur et dans le chuchotement. Mais ouvrez quand même l'oreille de votre cœur. Je dirais, soyez simplement dans un état d'ouverture. Si vous le souhaitez, je pense que si vraiment vous souhaitez cette expérience de découverte de l'amour de Dieu, soyez simplement dans un état d'ouverture. N'attendez pas des grands événements extraordinaires et vous verrez qu'un jour le Seigneur vous montrera par son esprit tout l'amour qu'il a pour vous. C'est en tout cas une expérience extraordinaire, une expérience enracinante vraiment et qui change la vie. Qui change la vie, mais qui la change en qualité. La change en qualité, vous ne changez pas nécessairement de statut. Et si vous êtes marié, il faudra continuer à vivre. Mais on vit autrement, ça je peux vous le dire. Ça, c'est un premier effet, première action de l'Esprit. La deuxième, l'Esprit-Saint nous fait découvrir que nous sommes membres d'une grande famille. Je vous parlais d'affiliation, nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes aussi membres d'une grande famille. Et cette grande famille, c'est la famille et que ce sont tous les chrétiens, quelle que soit leur appartenance ecclésiale. Notre famille est très grande, la famille chrétienne est très grande, c'est le corps du Christ, c'est l'Église au sens le plus large du terme. Ce n'est donc pas uniquement une Église institution, c'est bien plus large, nous sommes Église. Et c'est toutes les appartenances ecclésiales. Nous sommes autant fils et filles de Dieu que les protestants, que les anglicans, que les orthodoxes, que les uniates, que les pentecôtistes, que les juifs. Le même esprit, il y a un esprit commun qui nous anime. Et nous appartenons à cette grande famille, aujourd'hui malheureusement encore très divisée. Et Jésus a beaucoup prié pour l'unité des disciples. « Qu'ils soient un », a-t-il dit. En priant. Et l'apôtre Paul nous a aussi encouragé en ce sens. Il dit toujours, il n'y a qu'un corps, qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, partout et en tous. C'est dans Éphésiens. Cette question de l'unité doit nous habiter, doit nous toucher. Comme dans la famille, où nous désirons tous dans nos familles, nous sommes malheureux dans nos familles, quand il y a de la division, quand il y a des... Eh bien, dans notre famille chrétienne, dans notre famille église, nous devons aussi désirer ardemment et travailler à cette unité. Quand vous avez l'occasion d'entrer en contact avec des frères et sœurs chrétiens, ou en tout cas, déjà... Tâchez de le faire. Si vous avez l'occasion de prier avec des gens, des chrétiens d'autres confessions, faites-le. Je ne sais pas si vous avez bien réalisé, il y en a qui le savent bien, que le programme Alpha est un cadeau des Anglicans à la famille chrétienne. Et qu'aujourd'hui, ce parcours se vit dans le monde entier, aussi bien dans des petites églises protestantes, toutes petites, que dans beaucoup aujourd'hui de communautés catholiques. C'est un cadeau, rendons grâce pour ce cadeau. Rendons grâce, vivez un programme que des frères et sœurs de toute confession chrétienne vivent aujourd'hui, en même temps que vous, quelque part dans le monde. Donc, l'Esprit Saint nous fait membre de cette grande famille qu'est l'Église. Et l'Esprit Saint peut aussi, comme cadeau, vous donner un amour renouvelé ou nouveau pour l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ et nous en sommes les membres. Nous sommes ce corps du Christ. Et aujourd'hui, Dieu sait si on entend de tous côtés fuser les critiques contre l'Église, contre les prêtres, contre les évêques, contre le pape, ils sont l'Église avec nous. Et nous avons peut-être vécu des expériences douloureuses dans l'Église, et il y en a qui ont rejeté l'Église au sens le plus souvent institutionnel à ce moment-là. L'Église est faite d'hommes et de femmes, avec leurs limites, avec leurs péchés. Je ne veux pas minimiser cela, mais il faut bien savoir qu'un des cadeaux de l'Esprit, c'est de pouvoir et d'arriver à nous donner un amour pour l'Église, pour nos frères et sœurs des autres Églises. Pensons-y, c'est quand même un beau cadeau. Il peut donner beaucoup de cadeaux. Je trouve que le désir de la grande famille et l'amour de Dieu sont quand même deux cadeaux qui me semblent essentiels. Mais c'est sûr qu'on pourrait, si j'avais 3 jours, je pourrais détailler d'autres cadeaux. Je vais venir au chemin qu'emprunte l'Esprit pour nous toucher. Je vous ai parlé des cadeaux, mais non. Quel chemin emprunte le Saint-Esprit pour nous toucher? Eh bien, principalement, j'allais dire, il a une telle liberté qu'il peut emprunter tous les chemins. Donc, il peut aussi bien saisir quelqu'un au volant de sa voiture, il peut saisir quelqu'un dans une forêt, dans le silence, il peut saisir quelqu'un en tout lieu. Il a une grande liberté. Mais quels sont les chemins les plus ordinaires qu'il emprunte? Eh bien, j'en ai dit déjà un mot, il y a le chemin des sacrements. C'est le premier chemin et celui qui nous permet de recevoir et d'entretenir cette vie de l'Esprit en nous. En général, lorsqu'un adulte manifeste le désir de faire un chemin de foi, on lui propose de se préparer aux 3 sacrements dits, qu'on appelle les sacrements d'initiation chrétienne, qui sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Donc ça, c'est des chemins un peu plus classiques et catholiques. Bon. Mais je rappelle, l'Esprit Saint a toute liberté. Et donc, il peut vraiment prendre des chemins surprenants. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis même convaincue aujourd'hui, qu'il prend des chemins très très nouveaux. Qu'il va parfois chercher des gens qui sont à milieu de toute appartenance ecclésiale. Et qui va les chercher là où ils sont, dans leur vie professionnelle, parfois dans des expériences de désert ou de choses qui n'ont rien à voir, qui sont hors contexte ecclésial. Et réjouissons-nous de cette liberté, parce que je crois que, pour employer des mots un peu drôles, il adapte sa stratégie au temps. Et qu'autrefois, quand on avait en Europe une société très chrétienne, ça passait forcément par l'Église et par le contexte ecclésial. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les choses évoluer, il est évident qu'il a changé un peu sa stratégie, qu'il va chercher, il va rencontrer les hommes et les femmes de notre temps là où ils sont. Premier chemin, chemin des sacrements. Deuxième chemin qu'il emprunte, c'est le chemin de la parole de Dieu. C'est un chemin qui devrait être toujours ouvert, parce que la parole de Dieu, que vous soyez croyant ou non, que vous soyez en recherche, la parole de Dieu devrait être votre nourriture quotidienne. J'ai lu récemment un livre qui m'a impressionné. C'est l'histoire d'un musulman qui s'est converti au christianisme, un musulman bien ancré dans sa religion, qui partageait sa chambrée avec un chrétien, en Irak, ça se passe en Irak, et il a pris, comme il s'embêtait un peu, il a pris la Bible et il a commencé à lire la Bible. Et il a découvert le message du Christ et il a été retourné. Donc, qu'on soit croyant, non-croyant ou d'une autre religion, la parole de Dieu peut être un chemin. Son efficacité est étonnante parce qu'elle fait ce qu'elle dit. Et Dieu nous parle par sa parole. Et effectivement, ce musulman s'est converti. Ça lui a valu le martyre, si je puis dire, les persécutions épouvantables. Il est aujourd'hui en France. Il a dû se sauver de son pays et de sa propre famille. Joseph à Louis, ou je ne sais pas quoi, ça s'appelle Le Prix à payer. Le livre s'appelle Le Prix à payer, je vous le recommande. C'est vraiment le chemin étonnant que peut faire la parole de Dieu. Alors, un troisième chemin, c'est le chemin de la prière personnelle et la prière communautaire. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il est évident que à partir du moment où on croit en un Dieu qui veut avoir avec nous une relation, la prière est la manière d'entrer en relation. La prière, c'est ce qui nous permet de faire le lien. Alors, on peut prier seul, c'est la prière personnelle, mais on peut prier en groupe. Et vous connaissez ces groupes, les groupes de prière du renouveau, vous connaissez les groupes, des groupes de prière dans les paroisses, il y a des groupes de thésée. C'est une manière de prier et de rejoindre le Seigneur par la prière, mais la prière communautaire. Mais alors, je vous disais qu'il avait toute liberté, le Saint-Esprit. Il y a aussi un moyen qui sont d'autres moyens, qui sont par exemple la beauté, la nature, la musique, l'art, une rencontre avec quelqu'un. Moi, je dois beaucoup dans mon chemin à deux collègues dans ma vie professionnelle qui m'ont vraiment montré des chemins. Je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'ils me racontaient à l'époque, mais ils m'ont ouvert des chemins. Donc, ça, ce sont un peu les chemins plus surprenants. Et je crois vraiment que devant un beau tableau, devant une magnifique forêt, devant un morceau de musique, devant une œuvre d'art, et à travers des rencontres, on peut rencontrer le Seigneur et l'Esprit peut agir. Je me souviens avoir un jour entendu l'interview d'une femme qui avait été touchée par la beauté de la liturgie dans une église orthodoxe et qui a été touchée par la beauté de la liturgie d'abord et ça a été le début d'un chemin. Donc je pense que c'est important. Donc toutes sortes de chemins, sans oublier les chemins plus surprenants qui sont laissés à la liberté de l'esprit. Alors, moi, je crois que si vous avez l'honnêteté de relire certains événements de votre vie, vous verrez que l'Esprit de Dieu était présent. Bien sûr, ça vous demande de chausser vos lunettes un peu autrement, mais vous verrez que si vous vous mettez à rechercher un peu, tiens, quand, à relire certains événements de votre vie, vous verrez que, effectivement, Dieu par son esprit était présent. Et c'est intéressant de faire de temps en temps un retour. Je crois que de temps en temps, si vous avez le temps de pouvoir relire un petit peu les événements de votre vie, ça ne peut pas faire de tort. C'est même un bon exercice. Et je raconte une petite histoire que j'ai vécue il y a longtemps, dans une époque difficile de ma vie. J'étais au volant de ma voiture, j'avais vécu une rencontre extrêmement douloureuse qui m'avait profondément bouleversée, et même plus que ça, ça m'avait même terrassée, au point que je crois que je n'étais même pas en état de conduire, tellement j'étais une jeune femme, je devais avoir, j'avais pas 30 ans. Et j'arrive à un carrefour, non loin de ce lieu, je m'arrête au feu et il faisait noir. Il y a un homme qui frappe à la vitre et me demande, j'étais à voler et il me demande de le conduire au Square Montgomery. J'ai même pas réfléchi, j'ai embarqué ce gars, il faut déjà être vraiment innocente. Hein, et ça m'a obligée de me ressaisir. J'étais obligée de ne pas m'écrouler parce que j'avais tout d'un coup un passager. Eh bien, figurez-vous que des années après, en relisant l'événement, qui m'est tout d'un coup revenu parce que j'avais oublié ça, Je considérais que cet homme a été pour moi l'ange envoyé par Dieu, a été vraiment le messager de Dieu pour m'empêcher de sombrer. Et je n'avais pas encore vraiment rencontré le Seigneur à l'époque. Je n'avais aucune idée de ce que l'Esprit Saint pouvait faire en moi. Mais c'est en relisant les événements de ma vie que je me suis rendu compte que vraiment, là, c'était la présence de Dieu et une aide tout à fait extraordinaire qui m'avait été donnée. Et plus tard, je me suis rendu compte que dans des décisions importantes de ma vie, j'ai reçu des signes ou des paroles qui m'ont aidée. Et ça, je pense que c'était concrètement le Saint-Esprit. Je me souviens un jour, j'ai dû participer à un débat difficile avec des croyants et des non-croyants. Et je me souviens avoir été à ce débat, c'était un débat public, un débat à la télévision. J'en étais malade, je ne voulais pas y aller. Eh bien, j'ai reçu au moment de l'enregistrement de l'émission, je pense même que ça passait en direct, j'ai reçu une paix et une lucidité qui dépassait mes possibilités humaines normales. Alors moi, j'ai toujours considéré que c'était vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, parce que non seulement j'étais en paix, et la paix est un des fruits de l'Esprit, mais je considère vraiment que là, j'ai reçu une aide qui dépassait ma simple capacité humaine. Ce sont des expériences qu'on n'oublie pas, parce que ce sont des expériences qui nous montrent combien concrètement le Seigneur est à l'œuvre par son esprit. Alors, quels sont les effets de son action? Donc, je vous ai parlé des chemins qu'il pouvait emprunter, outre sa liberté, le chemin des sacrements, le chemin de la parole, le chemin de la prière personnelle et communautaire, le chemin de la beauté, le chemin des rencontres. Enfin, voilà, je vous ai donné quelques exemples. Quels sont les effets de son action? Il peut en tout cas nous faire porter de beaux fruits. Et la puissance de l'Esprit fait que, comme fils et filles de Dieu, nous pouvons porter du fruit. Et ces fruits sont décrits dans l'épître de saint Paul aux Galates, au chapitre 5. Et ces fruits sont, écoutez bien, les fruits d'Esprit, c'est le texte, hein. Les fruits de l'Esprit sont la charité, la joie, la paix, la longanimité ou la patience, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur et la maîtrise de soi. Lorsque ces fruits sont présents dans une personne, on peut détecter la présence de l'Esprit. Que ces fruits soient présents dans une personne, dans un groupe, dans une paroisse, quand ces fruits sont présents, on peut dire que le Saint-Esprit est bien présent et bien agissant. Donc, les beaux fruits d'abord. Le deuxième... Et je peux vous dire que dans mon expérience de débat, là, difficile, j'ai reçu le fruit de paix. Ça, c'était évident. J'étais terrorisée à l'idée d'y aller. Et j'ai été remplie d'une paix qui me dépassait. Donc, voilà un fruit qui me fait dire que l'Esprit était avec moi. Deuxième effet, l'Esprit répand en nous ses dons et ses charismes. Je n'ai pas le temps de détailler les dons du Saint-Esprit. Ça mérite en soi tout un enseignement. Mais ils nous sont donnés gratuitement. Je dis, ça fait partie du package pour que nous nous en servions. C'est le don de crainte, de piété, de force, de conseil, d'intelligence, de sagesse et de science. Ça mériterait vraiment qu'on déploie tout un enseignement là-dessus, et malheureusement, je n'ai pas le temps. Mais ces dons viennent renforcer nos dons humains au service de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et ce sont des dons permanents, qui sont cités déjà avant la venue de Jésus dans les textes d'Isaïe au chapitre 11. Donc ces dons, ils nous sont donnés et sont indélébiles, on les reçoit. La question de savoir, est-ce qu'on les laisse se déployer en nous? C'est ce que je disais en commençant. On peut décider de s'asseoir dessus ou de les laisser dormir dans un coin de notre être. Mais ils nous sont donnés. L'Esprit répand en nous des dons, mais il répand aussi des charismes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un charisme? Vous entendez parfois parler des charismes. Ce sont des dons donnés par l'Esprit, non pas pour la personne à titre personnel, mais pour la communauté que sert la personne. Donc, ce sont des dons qui vous sont donnés pour le service d'une communauté. Ça peut être un don pour le service, un charisme pour le service, pour l'enseignement, pour le chant, pour l'organisation, pour l'écoute des personnes. Il y a toutes sortes de charismes. Et souvent, le Saint-Esprit vient en appui de nos talents personnels. Donc, si vous êtes un bon organisateur, eh bien, peut-être qu'il vous poussera à mettre vos talents d'organisateur au service de la communauté. Si vous êtes un bon cuisinier, peut-être qu'il demandera que vous vous mettiez au service d'un parcours alpha, ou mettre vos dons, votre charisme de cuisine au service du parcours alpha. Je donne des exemples comme ça, mais c'est ça le charisme. C'est un don donné pour que nous en fassions bon usage pour la communauté. Alors, lorsque nous donnons au Saint-Esprit l'occasion de se déployer en nous, ce qui sera le sujet de demain, hein, il concourt en outre à nous faire découvrir plusieurs choses importantes qui sont très précieuses pour notre vie, et en particulier, bien sûr, notre vie spirituelle. Mais notre vie spirituelle fait partie d'un tout. Notre vie humaine comporte beaucoup de facettes, et nous avons une des dimensions, c'est notre vie spirituelle. La vie spirituelle n'est pas quelque chose qui est là implanté dans un arbre quelque part à distance. Ça fait partie d'un ensemble, et ça fait partie de tout notre être. Ça fait partie de notre respiration, si je puis dire. Donc, lorsque nous donnons au Saint-Esprit l'occasion de se déployer en nous, il concourt à nous faire découvrir plusieurs choses précieuses pour notre vie spirituelle, notamment le goût pour l'écriture, l'envie de plus en plus grande d'aller dans la Bible, de lire la parole de Dieu. Et nous avons, comme catholiques, bien sûr, j'espère que vous avez tous une Bible, mais pour ceux qui prennent goût à la parole, on publie aujourd'hui dans deux éditions, ça va être Prions en l'Église et Magnificat, la parole de Dieu pour tous les jours. Et bien, ça, c'est vraiment magnifique. Moi, je l'ai toujours dans mon sac. Je la transvoie partout. Voilà. Et quand je suis dans un train ou quand je suis dans un tram, ben, je peux sortir mon prion et je me replonge dans la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous donne le goût pour l'écriture. Il nous donne le goût, le désir, l'envie, même si nous ne savons pas réaliser. La perfection n'existe pas. Elle n'existe pas. Et puis, nous sommes en chemin. Il donne aussi le goût pour la prière. Le Saint-Esprit nous permet de découvrir ou de redécouvrir la présence de Dieu dans nos vies. Ça, c'est vraiment très important. Il nous donne aussi, je l'ai dit tout à l'heure, l'amour pour l'Église, le goût pour l'unité. Il nous fait aussi découvrir le sens du pardon et de la réconciliation. Le Saint-Esprit peut même nous donner un autre regard sur les autres. Et enfin, je crois que ça, c'est aussi un stade de... Mais tout ça vient progressivement. Le Saint-Esprit nous donne une force nouvelle pour témoigner, c'est-à-dire pour dire qu'est-ce qui me fait vivre, qui me fait vivre. À partir du moment où on est habité de la présence du Seigneur, que le Seigneur devient vraiment quelqu'un de central, une personne importante, quelqu'un pour moi dans ma vie, eh bien j'ai envie d'en parler. Il faut trouver les mots, et rassurez-vous, le Saint-Esprit vous les donnera. Mais c'est notre mission de chrétien et de baptisé. Quand Jésus a dit à ses apôtres, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous, et il a ajouté, il n'a pas dit, je vous donne ça pour que ça fasse bien, il a dit, vous serez alors, je vous donne cette force, et vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que nous le recevons, bien sûr, pour nous, mais pour aller plus loin, pour témoigner, pour dire ce qui me fait vivre, pour vivre peut-être autrement, parce que simplement, dans notre manière de vivre, nous pouvons témoigner. Témoigner ne veut pas dire que vous devez prendre un micro, aller vous mettre sur une place publique et commencer à parler, ni non plus de faire du porte-à-porte pour parler de votre foi. Ça peut simplement être une manière d'être, une manière de vivre, une manière qui fait la différence. La différence, ce n'est pas vous qui la ferez, C'est l'Esprit de Dieu en vous et c'est la présence du Seigneur en vous qui fera la différence. Voilà, et ça c'est notre mission, de baptiser, nous sommes baptisés pour devenir des témoins. Et enfin, l'action de l'Esprit est une force qui nous fait aller de l'avant. Bien sûr, ça ne se réalise pas en une fois, je l'ai dit. C'est un chemin, nous sommes en chemin. Nous avons tous une histoire, nous avons tous un passé et le Seigneur le connaît, il le sait, il en tient compte. Nous avons tous, tout ne se réalise pas en une fois. Il faut parfois de longues années de recherche avant de découvrir, avant d'être prêt à accueillir cet amour de Dieu. Chacun a son histoire et elle est parfaitement respectable. Mais une fois que nous nous ouvrirons à l'Esprit et que nous ne lui mettons plus de bâtons dans les roues, il peut agir avec une force dynamisante pour notre plus grand bonheur et notre plus grand bien. Et donc, il faut demander au Saint-Esprit de venir habiter notre vie. Il faut lui demander son aide, si nous sommes un peu familiers avec lui. Il faut lui demander son aide lorsqu'on est à la croisée des chemins, lorsqu'on doit prendre une décision importante ou une orientation. Il est concret, hein, il vit notre réalité concrète. Lorsqu'on est perdu sur la route, appelez-le à votre secours. Il est lumière sur la route. On chante ça dans le... Si vous avez été attentif aux paroles que nous avons chantées, parce que je fais une parenthèse sur les chants, hein, mais quand on chante comme ça, avec bonheur, certains chants, quand on réalise parfois ce qu'on chante, c'est une prière, hein, nos chants. Et la parole du chant, elle peut tout d'un coup elle peut vraiment devenir effective et se réaliser dans nos vies. Donc demandez-le lorsque vous avez une décision importante, lorsque vous avez des réunions importantes, vous êtes à la croisée des chemins, lorsque vous êtes perdu. Mais même dans les petites choses, demandez son aide et vous verrez. L'important, c'est qu'il devienne un partenaire actif de vos vies. Vous faites appel à lui, vous l'écoutez, et c'est la prière. Je l'écoute, il m'écoute. Hein. Souffle de Dieu en vous, la vie même de Dieu. Et donc, il est vraiment... Le Saint-Esprit, on peut dire que c'est un peu le lien avec le Père et le Fils, mais il est aussi celui qui nous permet d'avoir un autre type de lien avec nos proches, avec nos frères et sœurs en Église, notre grande famille humaine, mais aussi notre famille d'enfants de Dieu, à laquelle vous appartenez grâce à l'Esprit. Pour terminer, qu'est-ce que je peux vous dire, comment conclure, que retenir de tout cela? En tout cas, plus un être se laisse d'expérience, je vois que plus quelqu'un se laisse animer par le souffle de Dieu, par son esprit, plus l'esprit peut se déployer et déployer son action en lui. Et plus les fruits de l'amour apparaissent. Et tout ça passe par notre humanité, par nos peurs, par nos réticences, par nos combats. Nous découvrirons cette autre manière de vivre notre vie humaine. Voilà, et on sent alors dans notre vie la présence agissante, aimante de Dieu. Et surtout, n'ayez pas peur du Saint-Esprit, ouvrez-lui les portes de votre cœur pour qu'il devienne l'hôte invisible de vos âmes, surtout qu'il devienne votre ami dont vous ne pourrez plus vous passer parce que sa présence est une présence d'amour, de paix et de joie. Et de tout cœur, je vous le souhaite vraiment. Amen.